Et par Dieu, monseigneur, c'était donc vous ? S'écria Philippe.
Et par diable, mes damoiseaux, répondit l'homme. Mais je vous reconnais aussi. Les frères Daunet, s'écria-t-il. Les plus jolis garçons de la cour, du diable si je m'attendais. Je passais sur la rive, j'entends la rumeur qui s'y faisait, je me dis, voici sûrement quelques paisibles bourgeois qu'on détrousse. Il est vrai que Paris est infesté de coupe-jarret et que ce ploué bouge de prévôt, ploué le cul, devrait-on l'appeler, est plus occupé à lécher les orteils de Marigny qu'à assainir sa ville.
« Monseigneur, dit Philippe, nous ne savons comment vous assurer d'assez de grâce. »«
Petite affaire, dit Robert d'Artois en abattant sa patte sur l'épaule de Philippe, qui en chancela. « Un plaisir pour moi. C'est le mouvement naturel de tout gentilhomme que de se porter au secours des gens qu'on attaque. Mais l'agrément est double lorsqu'il s'agit de seigneurs de connaissance, et je suis bien aise d'avoir conservé à mes cousins Valois et Poitiers leurs meilleurs écuyers. Mon seul regret est qu'il ait fait si sombre. » Ah, si la lune s'était plutôt montrée, j'aurais aimé découdre quelques-uns de ces trousse-goussets. Je n'ai point osé piquer vraiment de crainte de vous trouer, mais dites-moi, mesdamoiseaux, qu'aviez-vous amusé dans ce fangeux réduit ?
Nous promenions, dit Philippe Daunet gêné. Le géant éclata de rire.
Vous vous promeniez ? Le bel endroit et la belle heure pour se faire. Vous vous promeniez, dans la boue jusqu'aux fesses. Ils vous ont de ces dires. Et ils veulent qu'on les croie à jeunesse, dit-il jovialement en écrasant de nouveau l'épaule de Philippe. Toujours en quête d'amour, et le haut de chausse en feu. Ah, il est beau d'avoir votre âge.
Soudain, il aperçut leurs aumônières qui scintillaient.
Matin ! S'écria-t-il. Le haut de chausse en feu, mais joliment décoré. Bel ornement, mesdamoiseaux. Bel ornement.
Il soupesait l'aumônière de Gautier.
« Habile travail, précieuse matière, et brillant neuf. Ce ne sont point des payes d'écuyers qui permettent de s'offrir de pareilles bougettes. Les tire-laines n'auraient pas fait mauvaise affaire. »
Il s'agitait, gesticulait, tout roussâtre dans la demi-clarté, énorme, tapageur et graveleux. Il commençait à irriter sérieusement les nerfs des deux frères. Mais comment dire à qui vient de vous sauver la vie qu'il se veuille mêler de ceux qui le regardent ?
« L'amour paie, mes gentillets, » continua-t-il tout en marchant entre eux. « Il faut croire que vos maîtresses sont de bien hautes dames et bien généreuses. Les jeunes Daunet qui auraient pu croire cela. »«
Monseigneur se trompe, » dit Gautier assez froidement. « Ces bourses nous viennent de famille. »«
Tout juste, j'en étais sûr, » dit D'Artois, « d'une famille qu'on vient visiter après de minuit sous les murs de la tour de Nesle. Bon, bon, on se taira pour l'honneur de vos belles, je vous approuve, mes gentillets. »
Les dames qu'on baise, il en faut préserver la renommée. Dieu vous assiste, damoiseau.
Et ne sortez plus la nuit avec toute votre joaillerie.
Il partit d'un nouvel éclat de rire, cogna les deux frères l'un contre l'autre dans un grand geste d'embrassade, et puis les planta là, inquiets, contrariés, sans leur laisser le temps de lui renouveler des remerciements. Il franchit le ponceau qui enjambait les fossés et s'éloigna par les champs en direction de Saint-Germain-des-Prés. Les frères Daunet remontèrent vers la porte de Bussy. « Il vaudrait mieux qu'il n'en a pas raconté à toute la cour où il nous a trouvés, » dit Philippe. « Le crois-tu capable de fermer sa large gueule ?»«
Je pense, » dit Gautier. « Ce n'est point un méchant gaillard. »«
Sans sa large gueule, comme tu dis, et ses larges bras, nous ne serions pas là. Ne nous montrons pas ingrats, pas si vite. D'ailleurs, nous aurions pu lui demander ce qu'il faisait lui-même dans ce coin. »
Il cherchait des ribaudes, j'en jurerais. Et à présent, il doit s'en aller vers quelque Bordeaux, dit Philippe.
Il se trompait. Robert d'Artois n'avait fait qu'un détour par le pré au clair. Après un moment, il revint vers la berge, aux abords de la tour. Il siffla, de ce même sifflement léger qui avait précédé la bagarre. Et six ombres, comme précédemment, se détachèrent de la nuit, plus une septième qui se leva d'une barque. Mais les ombres, cette fois, se tenaient dans une attitude respectueuse.
« C'est bon, vous avez bien accompli votre travail, » dit D'Artois, « et tout s'est passé comme je vous l'avais demandé. »« Tiens, Karl Hans, » ajouta-t-il en appelant le chef des gredins, « partagez-vous cela !»
Et il lui jeta une bourse.
« Vous m'avez flanqué un rude coup à l'épaule, monseigneur, » dit le tire-laine.
« Bah, c'était compris dans le marché, » répondit D'Artois en riant. « Disparaissez à présent. Si j'ai de rechef besoin de vous, je vous en avertirai. »
Puis il monta dans la barque arrêtée à l'angle du fleuve et du fossé, et qui s'enfonça sous son poids. L'homme qui se mit aux rames était celui qui avait fait traverser les frères Daunet.
« Êtes-vous satisfait, monseigneur ? »
demanda-t-il. Il avait perdu son ton geignard, semblait rajeuni de 10 ans, et ne ménageait plus sa vigueur.
« Pleinement, mon brave Lormet, tu leur as joué ton tour à merveille, » dit le géant.
« Maintenant, je sais ce que je voulais savoir. » Il se renversa en arrière dans la barque, étendit ses jambes monumentales et laissa pendre sa grande patte dans l'eau noire.
Deuxième partie, les princesses adultères.